de Radio Occitanie et de la poésie, Les Poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Bonsoir. Alors, nous avons la joie d'avoir auprès de nous, ce soir, dans ce studio de la rue de la Salie, Isabelle Malaoué. Isabelle Malaoué, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être venue. Vous venez d'Ariège.
Ben, merci à vous. Hein,
oui. De Dalou. Et nous sommes très sensibles, bien sûr, à votre visite. Alors, vous venez parce que vous avez publié deux romans dont nous allons parler dans peu de temps et qui sont des romans, je crois, d'une originalité totale.
Hein ? Écoutez, j'espère.
Voilà. Alors, au préalable, si vous le voulez bien, comme chaque semaine, je vais présenter très brièvement quelques publications que nous avons reçues, une publication de poésie, bien sûr. Étant précisé que nous avons reçu beaucoup de publications et que, bien sûr, le choix des publications dont nous allons rendre compte dans les quelques minutes qui suivent ne veut pas dire que les autres publications ne sont pas à prendre en considération et que nous ferons certainement la semaine suivante. Alors, il s'agit d'abord des éditions Encre Vive. Les éditions Encre Vive sont des éditions qui existent dans la région toulousaine, qui ont été créées par Michel Cousin, et qui existent dans la région toulousaine depuis 1960. Vous vous rendez compte ? Et qui publie son 405e numéro d'Encre Vive. Alors, c'est Michel Cousin lui-même qui publie un recueil qui s'appelle Le Midi des Coquelicots. Et j'ai eu la surprise, dans la quatrième de couverture, de voir que, effectivement, c'est moi qui, bien involontairement, fais la présentation de ce recueil, puisque je pense qu'il a dû prendre ce commentaire sur, je ne sais pas, peut-être une revue dans laquelle j'avais parlé de lui, ou tout simplement peut-être un de mes comptes rendus de cette émission, Les Poètes, où je disais ceci: Michel Cousin est un poète facilement inspiré, les lieux, les légendes, le geste d'un homme ou d'une femme, un nuage qui passe, suffisent à irriguer cette parole de gravité, sereine, sinon heureuse, que l'on reconnaît sans risque comme la sienne. Et c'est peut-être cette certitude à identifier un ton, un souffle, un style, qui distingue la foule des auteurs, le poète authentique. Voilà, alors il s'intéresse beaucoup aux lieux. Michel Cousin, c'est une obsession presque que nous avons en commun, c'est-à-dire que le lieu, quand on est dans un lieu, ce lieu reflète à la fois son histoire, l'histoire des gens qui l'habitent, et ne peut qu'interpeller, à mon avis, le visiteur. Voilà. Et donc le poète, au summum de cette sensation, hein, doit découvrir ce qu'a ce lieu. Alors là, on va en parler, parce que alors là, il y a un lieu qui est le Mali, hein, dont nous allons parler tout à l'heure, et où, en lisant ce livre aussi, on ressent, hein, cette sensation de ce lieu qui est un lieu, totalement différent, mais que l'on découvre et qui devient familier.
Ah, voilà. Bah c'est un sacré compliment. Et
c'est ça.
Vous faites,
voilà.
Merci.
C'est ça. Et je crois que cette démarche, qui est la vôtre, que j'ai beaucoup aimée, qui est une démarche, à mon sens, totalement poétique, ça aussi, hein, d'arriver à rendre familier quelque chose d'étrange, de tellement exotique que vraiment, tout tellement extravagant par rapport à nos habitudes,
hein, ouais,
à nos quotidiens, mais de s'insérer là, et puis en définitive, de s'y trouver parfaitement à l'aise et même de s'y complaire dans ce lieu. Voilà, hein, c'est ça. Hein, c'est ce que j'ai ressenti, moi, avec ce roman, et c'est effectivement jubilatoire. Hein, c'est-à-dire, il y a de la joie à lire ça. Voilà. Alors, cette joie aussi, on la trouve chez Michel Cousin, qui dit par exemple: j'ai une ville dans la tête et je m'y promène quand m'en vient l'envie. La pierre y est grise au carrefour, mais dorée à la moindre griffure. Ici et là, d'humbles portes laissent passer d'humbles destins. Ici, derrière la moustiquaire, un chat attend. Là, des perruches bleues égrènent des ignominies du fond de leur cage. Là, un géranium a hérité de la ténacité d'une femme. Là encore, un frais regard s'enfuit. La halle, tout au milieu, distribue le pain, la paix, le sang vif et, les jours de bal, les battements de cœur. Si l'on s'éloigne par la rue droite, on rencontre, avant la montagne, un peuple d'herbes, de fleurs et d'arbres. Voilà, c'est le midi des coquelicots, donc c'est très doux, c'est vraiment quelque chose de serein.
Et ça parle, besoin,
et on en a besoin, ah, oui, on a besoin. Et surtout, ça parle des lieux, du temps. La peau est toute seule et se promène la nuit, son regard est immobile comme fixé sur l'éclat d'une braise, sa parole basse est inaudible, je ne sais le chemin qu'elle prend entre les cailloux et les dieux, je n'ignore rien de ces offrandes, de qui parle-t-il ? Voilà. Michel Cozem, Le Midi des Coquelicots, un très beau recueil qui constitue le 450e numéro d'Encre Vive. Le numéro vaut 6,10 €. Il est à commander à Michel Cozem, de Allée des Allobroges, 31-770 à Colomiers. Et puis Michel Cozem qui publie également, mais là en tant qu'éditeur, Thierry Laspal, L-E-A-S-P-A-2-L-E-S. Bref éclat, c'est un recueil également. Alors que dire là-dessus ? La poésie n'a de cesse, entend-on, de parler d'elle-même. Bon, les poètes aiment beaucoup parler de la poésie, et pourquoi non ? Dit l'auteur, ce narcissisme-là, au moins, est de bon aloi. Encore lui faut-il se donner l'expression la plus convenable, brève tout d'abord, pour fuir le discours et ses certitudes argumentées, mais éclatante aussi, autant que faire se peut, afin de laisser à l'image libre cours et lumière profonde. Bon, voilà. Bref éclat est le 9e recueil de Thierry Laspal, aux éditions Encre Vive. Un très court extrait. Les mots sont aussi des demeures. Les mots sont aussi des demeures, il faut les rendre habitables. Ça, c'est de Jean Cayrol, hein, poète bien connu pour ce qu'il a écrit sur la Shoah en particulier. Combien dans les sentiers foulés encore de feuilles afin que s'ouvrent les portes du matin. L'étiage des ruisseaux ne se gonfle encore que des reliques de la neige. L'on aurait tort de croire à la parole brève, ennemi mortel de la poésie. Éclat de voix aux lignes minces de la page. Voilà. Une poésie resserrée, terriblement concentrée, mais qui ne ressemble pas à ce que Bruno du Rocher appelait des chures de mouches, parce qu'effectivement, il y a des poètes qui mettent quelques mots sur une page, dans une topographie qui se veut élégante. Là, non, on n'est pas là. Ce sont des poèmes brefs, ce sont de brefs éclats.
Il faut le déguster et se concentrer.
Voilà, concentré, mais ce n'est pas non plus des ellipses, sans signification, quoi. Marilyn Bertoncilli, publiée également par Encre Vive, c'est la dernière œuvre de Phidias, ça c'est le titre du recueil. Alors, Marilyn Bertoncilli, elle est née dans les Flandres. Alors, elle dit « sur une frontière », ce qui prédispose sans doute à certaines rêveries de passage. Elle serait sur une frontière, hein ? Elle partage désormais sa vie entre Nice et Parme, après avoir enseigné la littérature, le théâtre et la poésie. Elle est titulaire d'un doctorat, spécialiste Jean Giono. Elle est l'auteur de nombreuses critiques littéraires et d'articles sur la pratique pédagogique. Alors, c'est la rédactrice en chef de la revue numérique Recours au poème. Je ne sais pas si vous connaissez.
Pas du tout.
Hein, Recours au poème. Donc, ça, vous le trouvez sur Internet. Hein, vous tapez Recours au poème. Et c'est très, très intéressant parce qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup de poèmes. Hein, et également pas mal de présentations d'auteurs et de critiques. Et également des signalements de ce qui paraît, des notes de lecture qui sont tout à fait intéressantes. Et ceci, elle le fait depuis septembre 2015. Elle publie également des critiques sur American Book Review, ARPA, Europe, La Cause Littéraire. Elle est traductrice et elle a publié Histoire de famille de Ming Di aux éditions Transinium en 2015. Voilà. Alors, ces photos, ces traductions, ces poèmes sont publiés dans diverses revues françaises et internationales, Autre Sud, Les Cahiers Froissart, Dissonance, Écrit du Nord, La Piscine, etc. Son premier recueil personnel, Labyrinthe des Nuits, a été publié l'an dernier en édition numérique. Donc, là aussi, les éditions numériques sont en train, petit à petit, de gagner quand même pas mal.
Oui, chaque année, une fois que ça prend. Voilà.
D'ailleurs, j'ai vu que votre livre également avait une édition numérique. Hein, on en parlera. Hein.
Mon éditrice m'a pas, oui. On n'en a pas trop parlé, mais oui. je pense oui, que ça doit faire partie. Oui. Fait des économies de papier, comme ça, pour ceux qui veulent faire des gestes écologiques.
Ça, c'est un autre sujet. Hein. C'est un autre sujet. Moi, je suis très attaché au livre. Bon. Voilà, alors Marilyn Bertoncini, qui est connue, effectivement très connue, parce qu'elle anime ce site ultra connu de tous les poètes en France, hein, et qui publie donc ce recueil chez Cosem. Chaque matin, les coursant lentement, je préparais le bois qui tremperait dans l'eau du grand bassin de pierre. C'est moi qui le faisais sécher au brûlant soleil de l'été. C'est moi qui portais tes ciseaux, qui faisais tremper tes pointes dans les langues du feu. Tu m'avais appris les fils et les mois de la pierre. Tu m'avais fait toucher la chair aux grains subtils des marbres de chiot, de panté ou paros, plus blancs que les neiges de l'Olympe, le lait dans lequel baigne le corps lunaire des déesses, si fin qu'il semble vert sans l'enduit des couleurs et que tu laissais nus, éclatants et interdits, terrifiant visage des dieux. La dernière heure de Phidias, aux éditions Encre Vive. Voilà. Et puis, alors, très brièvement, parce que j'en parlerai la prochaine fois, Jacques Canu. Alors, Jacques Canu, c'est un poète qui est né en 1930 et qui publie depuis une cinquantaine d'années à peu près, hein, et qui est toujours actif, et qui publie dans des petits carnets qui sont des petits délices, les carnets confidentiels, donc c'est le numéro 48, hein, 48 petits carnets comme ça, avec souvent des illustrations de Claudine Goux. Hein. Oui, c'est absolument magnifique. Et Jacques Canu, il publie également, il écrit également en espagnol. En espagnol. Donc, il a publié Viajero Voyageur, hein, ce qui est une édition qui vient d'Argentine. Il a publié en Argentine, c'est une édition bilingue. Alors, vous trouverez l'ensemble de ces coordonnées donc, de ces publications sur notre site les-poètes.fr, parce que je ne veux pas prolonger plus longtemps les présentations pour avoir le temps de parler de ce magnifique roman, donc Rumeurs, les rumeurs de la terre. Alors, Isabelle Malawi. Isabelle Malawi, donc vous êtes, donc j'ai vu que vous étiez, vous dites que je suis infirmière et maman, effectivement, hein, j'ai vu une partie de votre progéniture.
Voilà,
hein, que ça fait arriver dans le studio, c'est très ça. Bien.
D'ailleurs, on ne les entend pas crier, vous avez vu, ils sont calmes.
Ils sont bien élevés. Hein.
J'espère.
Bon, j'ai eu le grand plaisir de vous connaître. Lors de la distribution des prix des gourmets de lettres, hein, et je rappelle d'ailleurs que ce prix va avoir lieu encore, bien entendu, cette année, et que il n'est pas trop tard encore, je crois que c'était, pour adresser en tout cas pour la poésie, vous pouvez,
pour la poésie,
faire, voilà,
oui, hein, pour
vous
les
pouvez
romans,
le faire,
non,
voilà. Donc, c'est les gourmets des lettres distribuent donc décernent des prix d'histoire. On a eu le plaisir ici d'avoir le prix d'histoire qui est venu, Jean-Luc Doucet, qui nous a présenté ses ouvrages, dont le dernier, Ferdinand le débile, un prix du roman que vous avez eu. C'était en 2000.
Ben là, ces derniers mois, en octobre l'année dernière.
Voilà, ouais. En 2015. Alors.
Oui, c'est ça, 2015.
Voilà, en 2015, c'est-à-dire le dernier prix. Hein, mmh. Le dernier prix. Et également, il y a des prix d'histoire et des prix de poésie. Voilà, et c'est là que je vous ai rencontré, puisque vous étiez lauréate de ce grand prix du roman dans des gourmets des lettres sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Voilà. Et une belle récompense. Il y en a d'autres, on va en parler, hein, de votre roman. Alors, vous êtes, professionnellement, vous avez été infirmière, mais vous êtes surtout une passionnée de lettres. D'ailleurs, en lisant votre livre, Les rumeurs de la terre, qui est un livre qui a plus de 500 pages quand même, hein, on voit là qu'il y a un grand travail, à la fois dans le plan, dans la fabrication du livre, l'architecture du livre, hein, puisque il y a deux récits aussi dans ce livre, on en parlera tout à l'heure, hein, et également dans le style, dans la langue. Donc un travail vraiment que j'ai trouvé d'une grande puissance.
C'est trois coup, sacrés voilà, compliments voilà. Les uns la suite des autres.
Merci. Je trouve que c'est bon, c'était tout à fait logique donc que vous ayez ce prix du roman. Alors passionné de lettres, oui, parce que je vois que ça demande un travail qui est considérable. Et alors vous êtes passionné d'ethnologie aussi, d'anthropologie, de sociologie, d'histoire.
Ouais. Mais c'est-à-dire les sciences humaines, tout simplement.
Et c'est avec ça, en définitive, que vous avez bâti, en tout cas, ce livre, Les rumeurs de la Terre, puisque on retrouve toutes ces interrogations et ces connaissances aussi dont on va parler, parce que moi ça m'intrigue un peu, je me dis où est-ce qu'il y a un travail de documentation certainement important dont je vous parlerai.
Oui.
Voilà. Et je disais que c'était un conte, oui, ce livre sur les 500 pages...
Oui, c'est pas une biographie.
Oui, ce n'est pas du tout une biographie.
Oui.
Voilà, il y a un côté très oral. On a l'impression d'être sous l'arbre des palabres.
On est au Mali.
L'arbre des palabres, on est là et on a quelqu'un qui nous raconte.
Mais je peux l'expliquer peut-être pourquoi c'est pas une biographie.
Voilà. Alors ça, c'est très important parce que ça veut dire que sur les 515 pages, c'est très vite lu en définitive. Parce que,
ah oui, c'est pas laborieux du tout. Voilà, même si pour moi, c'était énormément de travail et des années de travail.
C'est possible.
Souvent, on me renvoie ça. C'est un conte vraiment pour laisser porter. Il y a beaucoup d'imaginaire. Parce que Sundiata Keita, donc, qui a vécu au XIIIe siècle, il n'y avait pas d'écrit au Mali.
Ouais.
Donc la parole s'est passée justement sous l'arbre à palabre. Et ce n'est pas une façon occidentale de penser, mais les conteurs, ils disent que la vérité, c'est celle qu'on est en train de dire. Alors, pour un occidental, c'est totalement faux. Pour un historien qui sort de la fac de Toulouse, c'est aberrant. Mais si on a un petit peu de légèreté, essayer de comprendre cette façon de penser, ça devient intéressant. On se dit, mais pourquoi pas? J'accepte. Cette personne me donne cette version de Sundiata Keita, mais pourquoi pas? Donc, il a réellement existé. Hein. C'est un personnage historique qui a fondé l'Empire du Mali, qui a quasiment les mêmes frontières que le Mali actuel, et d'autre part, qui a aboli l'esclavage, je rappelle, au XIIIe siècle.
Voilà.
Donc ça, c'est quand même époustouflant.
Oui. Surtout quand on sait ce qui va se passer après.
C'est ça. Hein? C'est pour ça que ça m'a intéressé énormément de montrer la beauté.
Oui.
Et que finalement, l'histoire du monde et de l'humanité, c'est toujours ça. On progresse beaucoup et puis parfois, après, la misère humaine et la violence, ça va ailleurs. Oui. Et puis, elle se déplace, finalement. Oui. C'est un déplacement incessant. Donc, en ce moment, en Europe, c'est la paix. Mais mes grands-parents, ils ont connu la guerre. Mon père, en 45, il était à Paris et il se souvient des bombardements. Au-dessus de la capitale, on a l'impression que c'était il y a très longtemps, mais non. Et la violence, elle est itinérante. Et malheureusement, ça ne s'arrête jamais, j'ai l'impression. Voilà. Mais le Mali, donc, a eu son époque glorieuse. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres, quand ils parlent de Sundiata Keita, ils disent l'époque glorieuse du Mali.
Oui. Voilà. Alors, c'est très intéressant d'avoir un petit peu exhumé, de rappeler ça. Hein. Je pense que ça éclaire aussi peut-être une certaine actualité, pour dire, tiens, mais attention, au XIIIe siècle, par exemple, l'Occitanie avait une civilisation qui était une civilisation extraordinairement ouverte.
Oui.
Par rapport d'ailleurs au reste de l'Europe, c'était une civilisation qui était beaucoup plus ouverte que tout ce qui se faisait ailleurs en Europe à cette époque-là.
Et qui a été terrassé. Hein?
Et qui a été terrassé aussi. Mmh. Qui a été aussi terrassé, bien entendu, parce que il y avait une richesse aussi économique, ou de potentialité économique, qui ont attiré les convoitises. Hein? Mmh. Mais il y avait, par exemple, à Toulouse, il y avait ce qu'on appelle le parage, la convivencia. C'est-à-dire l'étranger, une fois qu'il était dans la ville, avait les mêmes droits que l'habitant qui était là depuis toujours. Hein? Voilà. C'était le XIIIe siècle aussi. Hein? Donc,
ouais.
Et alors, j'ai trouvé cette coïncidence donc de date assez étrange. Je dis, tiens, le Mali aussi a connu une époque qui est une époque de grand humanisme à cette époque-là.
Grand humanisme,
hein? Alors, avec effectivement des choses qui, pour nous, par exemple, nous, je parle de la société occidentale contemporaine, sont des choses qui peuvent nous apparaître comme par exemple, la polygamie, le sort des femmes, mais là, il y a une subtilité, dans, je trouve, dans ce roman, sur,
mais
sur,
j'espère, sur les femmes. J'espère, oui, que j'ai réussi à le faire apparaître, voilà. Que son Zeta Keta, justement, lui, il a, bon, il a eu plusieurs femmes, parce que ses femmes sont décédées, donc voilà, mais toujours, il a aimé son épouse, et c'est un des points de départ, ce qui m'a donné envie d'écrire ce roman, c'est qu'un jour, je découvre que la charte du Mende existe, et je pensais que c'était un texte contemporain, parce que je vois, le mariage n'est pas un rapport de domination de l'homme sur la femme, et je retourne le livre, et je m'aperçois que ça a été écrit au XIIIe siècle, en plus au Mali. Oui. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait dire aujourd'hui en France, voilà, dans les rues de Toulouse. Oui. Mais dans ce contexte-là, en plus, ce qu'on dit actuellement sur le sort des femmes au Mali, ce qui est vrai, hein, voilà, c'est intéressant quand même de voir que Sundiata le voyait comme ça. Et j'ai souhaité faire en sorte que Sundiata Keita se mobilise contre l'excision, qui n'a rien à voir avec l'islam, ça c'est important pour moi de le préciser, c'est anti-islamique, l'excision, ça n'a absolument aucun rapport avec cette...
Cléopâtre était excisée.
Et Sundiata Keita, j'ai souhaité qu'il, puisqu'il abolissait l'esclavage, bon, j'ai fait en sorte qu'il abolisse l'excision. Après, ça c'est moi qui l'ai mis, je ne sais pas si c'est une valeur historique. Voilà. Mais comme dans mon travail, j'avais... rencontré avant beaucoup de femmes excisées, j'avais fait un travail de prévention. De temps en temps, je le mets voilà, dans mes romans.
Alors, ce n'est pas votre premier roman, puisque vous aviez, en 2013, vous aviez publié Toulkelila.
Toulkelila, oui.
Toulkelila, hein.
C'est dur à prononcer. Parce que vous savez pourquoi ? Parce que c'est un mot magique, qui ne veut rien dire du tout. C'est un mot pour faire sourire.
Alors là, on est aussi dans cette partie quand même orientale. Hein. De quoi s'agit-il ? Dans de nombreuses frontières infranchissables, fragments de ce monde, comme celle de la Corée, de l'Europe, du Mexique. Hein. Et le mur qui entoure Gaza fait évidemment partie de ces édifications qui morcellent la terre, vous dites, et engendrent des douleurs indescriptibles. Donc le roman se situe...
Eh bien, le héros, il est là, ça me permet d'expliquer le rapport entre le métier d'infirmière et celui de romancière. C'est que dans mes romans, je prends soin des gens. Et les autres les trouvent laids, peut-être par exemple un clochard. Et dans Toulkelila, le narrateur est un clochard. Et j'aime beaucoup, beaucoup les personnes complètement différentes. C'est des personnes qui m'intéressent beaucoup. Et ce narrateur, tout le monde le méprise. Parce qu'il sent pas bon, parce qu'il vit dans la rue. Et j'espère, en tout cas c'est ce que m'ont renvoyé les lecteurs, que voilà, ils arrivaient à le trouver beau par la façon dont j'avais de le décrire. Et lui, comme il est né en Allemagne de l'Est, il connaît beaucoup de choses sur les murs. Et c'est lui qui va raconter par certaines rencontres qui fait le lien entre tous ces lieux géographiques. Ça m'était difficile sans lui de pouvoir faire quelque chose de cohérent, parce que la Corée, Gaza, le mur de l'Europe et le mur de l'indifférence aussi, vous l'avez pas dit, mais le mur de l'indifférence que lui vit tous les jours en tant que SDF dans la rue. Donc j'aime bien prendre soin des gens. Alors après, parfois c'est par des gestes en tant qu'infirmière, des fois ça peut être des paroles aussi. Peut-être vous aussi, vous avez eu la chance d'expérimenter ça, qu'il y a 20 ans, quelqu'un que vous ne connaissiez pas vous a dit une phrase. Et cette phrase, vous vous en souvenez encore. Ça, j'y crois beaucoup. Et donc j'essaye, je n'y arrive pas tous les jours, mais j'essaye de faire bien attention à ce que je dis aux gens, parce que parfois, on ne mesure pas la portée des mots.
Ah oui. Il y a d'ailleurs un exergue du livre, vous citez je ne sais plus qui, qui dit attention.
Oui, c'est un griot qui est d'ailleurs dans la région, que si tu as rien à dire, en fait, vaut mieux te taire. Quand ta parole est moins importante que le silence, garde-la dans ta bouche. Au moins, elle fera pas pourrir ta langue. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est ça.
Oui. Alors ça, c'est quelque chose d'universel. Hein. Il y a beaucoup de penseurs ont dit ça.
Oui.
Et c'est toujours vrai, quoi.
Évidemment.
C'est toujours vrai. Ouais. Parce que la parole, c'est une arme aussi, c'est une arme.
Mais complètement. Mais c'est pour ça qu'on veut tuer les poètes.
Bien sûr, voilà. Hein? Oui.
En Iran l'année dernière, je crois qu'il y a un jeune homme qui a été pendu juste parce qu'il parlait de la lumière du vendredi ou du lundi, ce qui paraît totalement incohérent pour.
En Arabie Saoudite aussi.
Bien sûr, on tue des gens pour les mots.
D'un poète qui a été sauvé in extremis, mais enfin qui est toujours dans les geôles d'Arabie Saoudite. Par la parole, justement. Alors, on va revenir aux rumeurs de la Terre. le Mali, est-ce que vous êtes allé au Mali?
Alors, j'ai travaillé au Sénégal. Ah. Et il se trouve que l'empire du Mende de Sondiata Keita débordait un petit peu sur le Sénégal. Mais surtout, quand donc je suis infirmière spécialisée en pédiatrie, j'ai travaillé au Conseil général du 92 sur la ville de Clichy, où il y a beaucoup de squats. Et il y avait un énorme squat dans un immeuble haussmannien, où il y avait toute une communauté de Maliens sur 7 étages, avec plusieurs appartements. Et donc le jour où j'ai osé pousser cette porte en bois de poids colossal, eh bien je suis rentrée aussi dans l'univers de ces gens. Ils m'ont accueillie d'une façon extraordinaire. Donc j'ai été diligentée dans le cadre de la protection de l'enfance, mais quand j'allais les voir, ce n'était pas de la protection de l'enfance, parce qu'ils savaient très bien prendre soin de leur enfant. C'était, on appelait ces personnes-là les sans-papiers à l'époque, maintenant on dit migrants, mais bon, finalement, on parle des mêmes personnes. Et j'y allais pour dire, vous n'avez peut-être pas de papier, mais vous avez un nom, votre nom m'intéresse, le nom de votre enfant aussi. Et donc régulièrement, chaque semaine, quand je savais qu'il y avait tous les 15 jours, j'allais prendre des nouvelles de Geneva, Et ces personnes du Mali donc m'ont beaucoup appris, bien sûr.
Ça se sent qu'il y a une expérience quand on lit le roman. Oui, on dit bon, pour que ce soit aussi familier. Il faut qu'elle ait eu, dans les dialogues, par exemple.
Oui, je pense. Oui, sur le nom de famille aussi, le nom de famille,
etc. Ouais. Les habitudes, par exemple, que la politesse au Mali, c'est de dire le nom de famille.
Maloué.
Maloué, c'est pas de dire.
Chez nous, ça se fait pas.
Maloué. Tout ça, j'ai dit là, ça se vit, ça. Il faut avoir eu l'expérience. D'accord. Oui. Donc vous m'avez bien expliqué comment était née cette expérience et qui rend le récit effectivement très 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 vivant et très intéressant. Ouais. Alors, on va donner, parce que malheureusement le temps passe beaucoup plus vite qu'on ne croit, on va donner, si vous voulez bien, à entendre. Alors, ce livre, c'est un roman. On a dit, il est construit comme un conte, c'est-à-dire c'est pas une biographie, c'est pas la biographie d'un personnage qui a véritablement existé, qui a fait des choses d'une grande humanité, mais c'est raconté à la manière d'un conte, d'un conte avec toutes les péripéties, toutes les intrigues aussi. Il y a du suspense. On se demande si à un moment donné, on va faire du mal au fils, comment il s'appelait là, au fils de Sogolon. Lorsqu'il est enfant.
J'ai essayé de comprendre comment un homme qui vit dans la brousse au XIIIe siècle, comment est-ce qu'il a l'idée de trouver inacceptable l'esclavage. Alors j'ai trouvé deux raisons. Une, c'est que dans certaines versions de l'histoire de Sundiata Keita, on dit qu'il a été handicapé jusqu'à l'âge de 7 ans.
Comme le héros du... Enfin, ce que vous dites dans votre...
Donc moi, je me suis emparée tout à fait de cette version de l'histoire, parce que je pense que c'est pas anodin de connaître l'humiliation et le mépris, puisque il était destiné à être chasseur, c'est-à-dire à nourrir les gens du village. Et là, un chasseur sans jambes, ça ne sert à rien. Et voilà, la loi du plus fort fait que, il a été méprisé. Et ce mépris, comme il est résilient, il a réussi à en faire quelque chose. Et après, de se dire, mépriser les gens, ce n'est pas possible, moi qui ai connu ça. Ouais. Et la deuxième chose que j'ai trouvée dans son histoire qui pouvait justifier sa grande humanité et un esprit éclairé comme ça, c'est que sa mère était d'une laideur historique. Oui. Ça, par contre, c'est une constante. Dans toutes les versions de Sundiata Keita, Sogolon Kondo, sa mère, était tellement laide qu'on s'en souvient en 2016 et qu'on en parle dans les livres. Et ça me plaît énormément. Parce que, en tant que mère, j'ai lu pas mal de contes à mes enfants tous les soirs pendant des années et des années. Et à chaque fois, j'ai trouvé cette constante qui m'est vraiment insupportable, c'est que toutes les histoires qui parlent de femmes, on dit qu'elle est jolie ou elle est belle. Mais jamais vous allez trouver, il était une fois une princesse cultivée, généreuse, gentille, parce que c'est pas un défaut d'être gentille, ou courageuse, ou... Non. Il faut qu'elle soit jolie ou belle. Et alors, à chaque fois, j'interpellais mes enfants en disant, mais fais attention, parce que qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et là, tout d'un coup, je rencontre une histoire. Sogolon, elle est laide, mais tellement laide, que les gens font un détour, elle est voûtée, elle a des pustules, son visage n'est pas proportionné comme il faut. Mais justement, son époux finit par l'aimer par sa conversation, qui ne ressemble pas à celle des autres femmes qu'il avait l'habitude de prendre gentil, puisque c'est un roi, il peut choisir. Donc forcément, il prenait des jeunes, toujours d'âge constant, tandis que son âge changeait. On peut le comprendre, hein. Mais seulement jolie. Et à un moment donné, il comprend que, bah, mine de rien, avoir une compagne qui a de la conversation, ça peut être aussi intéressant.
Mais il n'y arrive pas comme ça.
C'est elle aussi qui...
Oui, c'est elle, oui. Mais il l'a choisie parce qu'il y a eu une devineresse.
Qui lui a promis que s'il s'unissait avec une femme d'une laideur...
Donc c'était au départ, c'était
un calcul.
C'était un calcul. Et puis, il va être en définitive séduit.
Voilà.
Par cette femme, d'une façon absolue, hein, par justement par l'esprit, parce qu'elle, ce qu'elle émane, hein, par la pensée, par l'intelligence, par les sentiments et par la réflexion.
Voilà.
Ça, c'est quand même.
Oui, j'y tenais beaucoup.
Voilà. C'est quand même important.
Voilà. Essentiel.
Et ça arrive, elle le conquiert comme ça. C'est pas.
Elle a des exigences calmes, mais lui, il la convoque dans sa vina, donc il veut dire sa maison, et elle lui dit, mais moi, j'ai pas du tout envie d'être mariée avec vous, j'exige que vous connaissiez mon prénom, que vous me parliez, voilà. Normal, quoi.
Alors, il y a aussi, dans ce roman, le côté conte, mais également le côté tout à fait initiatique aussi. Hein, donc, là, bien sûr, en Afrique, tous les rites sont des rites initiatiques. Hein, des chasseurs à 7 ans partent dans la forêt avec eux. Il faut qu'ils trouvent un arbre dans lequel on va tailler l'arc qui leur servira pour la chasse. Il y a une très belle phrase que j'ai relevée, c'est celle-ci. L'arbre fromager sort d'un grain minuscule.
Oui.
Voilà. Ça, j'ai trouvé ça magnifique parce que c'est tout à fait symbolique et c'est aussi il y a quelque chose d'initiatique là aussi.
Hein, mais les arbres sont très importants dans mes récits.
Le grain qui va pourrir, qui va mourir pour donner quelque chose, un grain minuscule qui va donner effectivement naissance à un arbre magnifique.
Hein,
l'arbre
fromager. C'est comme une parabole, c'est vrai. Voilà. Et il y a un arbre comme ça tout aussi fascinant qui s'appelle l'eucalyptus. Bon, c'est en Australie, c'est pas en Afrique. Mais c'est de la poudre. Les graines. Et quand on voit la taille de l'eucalyptus et puis ses capacités à résister au feu et sa résilience aussi, c'est très intéressant, je trouve. Après, si on le met à l'échelle de nos vies, de dire que les petites choses, parfois,
peuvent faire de grandes choses.
C'est comme Sundiata, il était paralysé, il commence avec une mère qui est détestée de toutes les coépouses et donc finalement du village. Donc il commence mal sa vie de futur roi victorieux, etc. Mais il prend son temps. Mais finalement, pendant ce temps où il est en retrait, il apprend des choses sur l'humanité qui lui font mal. Parce que toutes ces humiliations, ça lui fait mal. Mais au bout du compte, on est obligé de dire que grâce à cette résilience, ça va le rendre riche.
Ce qui m'a frappé aussi, c'est le fait que quand il est paralysé jusqu'à l'âge de 7 ans, il ne perd pas son temps.
Mais non, pas du tout.
Il perd pas son temps, il est dans la maison et il écoute tous les villageois qui sont sous l'arbre à palabre. Hein. Et là, il apprend constamment.
Tous les jours, leur médiocrité.
Voilà.
Leur...
Il apprend tout. Il apprend de la vie, comme ça, d'une façon fabuleuse, puisque après, il va s'en servir de cela avec beaucoup d'intelligence. Hein. Et c'est vrai que je pensais par exemple à Marcel Pagnol, quand il était petit, donc ses parents étaient, son père était instituteur, il le prenait dans la classe, il le mettait au fond de la classe, et puis il a appris, on lui disait rien,
mais
il a appris à lire tout seul.
C'est exactement.
J'ai dit, ça c'est du Pagnol, c'est exactement la même chose que Pagnol, il était là, personne ne lui a appris quoi que ce soit. Il s'est appris tout seul en écoutant les autres.
C'est vrai que ce passage de la vie de Pagnol, des fois, ça m'a mis les larmes aux yeux quand j'y ai repensé. Père dit qu'il est très fier de son petit garçon.
Oui,
c'est vrai.
Mais c'est ce qui est arrivé à Sundiata.
C'est ça. Mais il a dû arracher quand même l'admiration à son père, parce que c'était pas gagné. Narinagan Konate, comme vous dites, Oui, il a aimé Sogolun, mais il l'a aimé avec ses capacités. C'est quand même pas un homme d'une grande générosité, oui, on peut
oui,
le dire.
Oui. Hein oui. Bon, disons, on sent le calcul. Hein,
oui, le calcul.
Et puis quand il pense que peut-être il s'est fourvoyé, bon, il fait pas beaucoup d'efforts.
Non,
il
l'aide pas beaucoup.
Temps, il l'aide pas beaucoup. Hein. Donc là aussi, il y a le personnage de Sogolun. Là, c'est une femme plus que méritante, quoi.
Oui,
c'est héroïque même dans le mérite. Hein,
oui,
hein,
oui.
C'est ce que j'ai ressenti.
Tout à fait.
Vraiment, vraiment. À tout point de vue, les corvées.
Oui, puis elle supporte le mépris, donc déjà dans son physique, parce que porter de l'eau, c'est très douloureux pour elle, vu son corps.
Oui.
Mais en plus de ça, elle n'exprime aucune haine.
Oui, oui.
Et tous les sages, c'est universel, ça, quelle que soit leur foi, ils disent que la vraie sagesse, c'est justement d'arriver à recevoir le mépris et la haine, et après, de ne pas la renvoyer. Mais ça, pour arriver à faire ça, bon, c'est pas... Je ne sais pas si j'en serais capable. Oui. C'est pas les humains ordinaires qui
beaucoup
peuvent faire ça.
Hein.
Tout le monde ne peut pas faire ça, c'est sûr.
Alors, Isabelle, je vais vous demander si vous voulez bien de nous lire. Il faut entendre le ton de ce livre, de nous lire un extrait de ce livre. Alors, il va se situer où ? On est à quel moment ?
Alors, est-ce que peut-être sur la laideur de Sogolun, ou peut-être je commence par la fin, je vous lis juste deux, trois phrases de qu'est-ce que c'est que la charte du Mende.
Ah oui, parce que c'est important,
Donc, qui a été dictée par Sondia Taketa, où il donne les lois du Mali qui vient de fonder. Et juste, voilà, quelques phrases, parce que c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce roman. Et les valeurs, donc c'est je fais le résumé, hein. Il dit que la faim n'est pas une bonne chose, et l'esclavage non plus, qu'il n'y a pas pire calamité, mais qu'à partir de maintenant, dans le monde du Menden, plus personne n'ira mettre le mort dans la bouche de son frère pour aller le vendre. Il dit aussi que chacun veille sur le pays de ses pères, qu'il faut prendre aussi soin de son prochain, vénérer ses géniteurs. Il ne dit pas aimer, il dit vénérer ses géniteurs. Et que chacun éduque ses enfants et que chacun pourvoie aux besoins de sa famille. Et je suis tellement convaincue que nous tous humains, là, j'ai vécu tout ça dans ce métier d'infirmière. Quel que soit l'endroit d'où on vient, en fait, on veut la même chose.
Oui. Ce sont les principes d'humanité universelle.
Mais oui, bien sûr. On essaye là constamment dans les médias de nous montrer nos différences. Mais on a tellement de points communs, déjà commençons par là. Et de prendre soin de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos enfants.
Oui.
Voilà. Déjà, commençons par là, ce sera énorme.
Mais surtout, et je crois que dans l'abolition de l'esclavage, il y a quelque chose de symbolique aussi, c'est-à-dire ne pas profiter de l'autre, ne pas l'exploitation, c'est ça.
Oui.
Hein, que l'homme a toujours exploité l'homme, quoi. Hein, c'est terrible.
Mais à Clichy, en PMI, ça m'est arrivé de trouver des situations d'esclavage moderne. Une fois, j'avais une dame qui était venue se réfugier à la PMI avec son petit garçon qui était enceinte. Et en fait, l'allée juste derrière, dans les immeubles bien cossus là, de Clichy, il y en a quelques-uns, il n'y en avait pas beaucoup, mais elle était donc enfermée depuis 3 ans. Voilà. Elle venait d'Angola. Donc forcément, ils prennent quelqu'un, dans les années 2000, au moment de la guerre, quelqu'un qui peut pas se défendre. Donc ça existe toujours aujourd'hui. Après, ça prend différentes formes.
Oui,
voilà.
Oui, il y a des formes plus perverses,
pernicieuses. C'est pour ça, vous m'avez demandé d'en parler, là, tout d'un coup, j'y pense, de ce travail d'architecture, du roman qui est en miroir, où je parle des migrants. Parce que le mur de l'Europe, on en a parlé dans tout le Kenya, comme avec les sans-papiers, là, j'ai rencontré les personnes en vrai. Si vous voulez. Donc pour moi, c'est pas de la théorie que je vois à la télé. Alors peut-être je suis une idéaliste complètement à côté de la plaque et de la bonne case, c'est possible. Mais moi, je vois la personne qui est en face de moi. Je suis pas une politicienne, je sais pas faire. Donc je vois quelqu'un en face de moi qui a un nom, une histoire, qui est l'enfant de quelqu'un, peut-être le parent de quelqu'un, et je m'intéresse à cette personne. Donc c'est pour ça qu'il y a un travail d'architecture en mémoire dans ce roman, où il y a une femme qui s'appelle en fait Kuruma Keita, mais qui, comme elle était très très brillante, elle a réussi à devenir avocate. Alors au début du livre, on croit qu'elle est blanche et qu'elle s'appelle Alexandra Buisson. Et petit à petit, en rencontrant une femme sans papier, qui elle la reconnaît, elle lui dit « Mais toi, tu es une petite fille de Sonia Taketa, je te reconnais. Et elle lutte, elle dit « Non, 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 parce qu'elle a tout fait pour s'intégrer, pour presque oublier la couleur de sa peau. Et au cours de cette histoire où on revient quand même la plupart du temps sur le passé, Sonia Takeda, elle comprend mais qu'il faut pas avoir honte d'être malien. Mais pas du tout. Au contraire, quel soit l'endroit du monde où on est né, il y a une parcelle d'intérêt, de gloire de ses ancêtres et qu'il ne faut pas avoir honte de qui on est. Voilà.
Alors pour que les auditeurs comprennent bien, vous avez dit un miroir, il y a donc deux récits.
Hein, voilà.
Il y a deux récits. Un, c'est le XIIIe siècle.
Voilà,
sur le compte de ce qui s'est passé là, de ce roi qui a aboli l'esclavage, etc.
Oui.
Et puis, en miroir, il y a un récit contemporain, tout à fait contemporain, très alerte, dans un style très d'ailleurs différent, hein, oui. Avec des dialogues qui sont le reflet véritablement de la, je dirais, d'un style plus naturaliste.
Oui, il y a peut-être un peu une ou deux grossièretés. Hein,
non, mais c'est bien, oui, mais justement, ça donne bien l'ambiance de.
Mais comme elle est avocate commis d'office, elle rencontre des gens qui ne sont pas polis.
Voilà, donc avec là aussi, il y a une belle, je trouve une belle peinture de ce milieu effectivement, parce que rencontre les avocats.
Les centres de détention et de rétention pour
qui défendent ceux qui sont dirigés vers les centres de rétention, c'est-à-dire qui doivent être reconduits dans leur pays. Également, bien sûr, toute la population qui se retrouve dans des actes répréhensibles, quoi, hein, au sens de la loi. Voilà. Donc les deux récits, effectivement, je trouve que cet effet de miroir est très fort, parce que on retrouve quand même, la mentalité n'a pas tellement changé, quoi.
Mais non, bien sûr. Mais voilà. C'est une de mes convictions.
Donc, 7 siècles après, même un peu plus, ben on retrouve quand même aussi les mêmes préjugés, quoi, les mêmes et les mêmes difficultés, disons.
Et en allant à Tarascon, vous avez dit que c'était riégeoise, quand on parle des hommes préhistoriques, à chaque fois, quel que soit le site de la préhistoire, le guide ou la guide dit... Ils avaient la même intelligence que nous.
Ah oui,
donc
c'est
à partir
sûr,
de ce moment-là, il voilà, faut arrêter de croire que ça y est, aujourd'hui, on a accédé à l'absolue intelligence. Non, je ne crois pas.
C'est la technologie qui a fait des progrès.
Qui peut-être nous aliène
de temps en temps. Oui, puisque Einstein a dit qu'à partir du moment où la technologie prendrait le pas un petit peu sur les décisions, etc., on aurait affaire à une génération d'idiots.
Mais oui. Mais je vais vous dire, on n'est pas hors sujet parce que c'est un rapport avec Sonia Takeda. Je suis en train d'écrire un roman qui s'appelle La famine du drone et qui dénonce des choses extrêmement modernes, là, qui sont soi-disant des progrès. Et j'ai trouvé un fait dans Le Monde, donc c'est un journal sérieux, disent qu'en Asie, ils ont inventé un appareil pour que les parents n'aient pas besoin de bercer leur nouveau-né le soir. Donc c'est une machine qui s'occuperait, vous voyez, dans l'histoire de l'humanité, on a fait
Alors, ça. C'est une erreur, dirais-je, incommensurable, hein, puisqu'il y a des, au contraire.
C'est aberrant.
Élever un enfant, lui donner tout ce qu'il a besoin physiologiquement, etc., mais ne pas lui donner ce qu'il
a... La parole,
l'affection,
le toucher.
L'affection, le toucher, l'affection. La sensation, l'amour en définitive, c'est le tuer.
Mais et tout à fait.
Et
c'est irrémédiable.
Et ça a été expérimenté, même sur les Allemands ont fait ça d'ailleurs certaines périodes. C'est prouvé. C'est scientifiquement.
Voilà, ça tue l'intelligence et l'affect définitivement. Voilà, donc après, l'être se retrouve à l'état végétatif. Oui. Voilà, donc effectivement, arrêtons de croire qu'on a inventé le monde et les droits de l'homme et je ne sais quoi, et l'intelligence. Voilà, on a finalement, au XIIIe siècle, Sonia Takeda savait des choses aussi. Et là, voilà, j'essaye de...
Alors, on écoute ce récit.
Alors, la mère de Sonia Takeda est une concubine, une insignifiante coépouse. Sa première tare était d'être née dans une contrée éloignée et sa deuxième, son aspect, la rendait bannissable. Sogolun avait le corps déformé. Elle était affublée de nombreuses malfaçons. Sa laideur devint légendaire, célèbre jusque loin dans la plaine. Les Dogons, lointains chasseurs du Nord, eurent connaissance de cette disgrâce physique. Les souverains prenaient des épouses jeunes et plaisantes. Il était improbable qu'un roi tel que Nar et Konaté eût pu s'unir à une créature si informe et si repoussante. Certains disaient que lorsqu'elle apparaissait, végétaux, bêtes et hommes étaient pris par des soubresauts de dégoût. Mais le roi Narinagan Konaté n'était pas un souverain comme les autres. Un jour, tandis qu'il chassait l'antilope, il avait croisé la route d'une devineresse. La sorcière lui avait fait cette prédiction. « Si tu épouses une femme laide et bossue, ton fils deviendra un mansa, un empereur comme le Mandé n'en a pas connu. Plusieurs décennies plus tard, tandis que l'âge faisait naître des douleurs dans son dos, que l'acuité de sa vision déclinait et que ses bras peinaient à tenir longtemps son carquois, il eut la visite des chasseurs. Ils venaient des territoires extérieurs, revêtant d'étranges pelisses en peau de buffle. Leurs chevelures étaient encroûtées par de la boue rouge et leurs lèvres inférieures portaient des bijoux lourds et sculptés. Leurs armes semblaient tranchantes, les lames affûtées brillaient au soleil couchant. Ils avançaient calmement, certains de leur valeur. Leur bravoure était connue, leur réputation les précédait. Tandis que le chacal de la plaine hoquetait trois fois, ils firent leur apparition sur la place du village. Une jeune fille vériconduse se tenait derrière eux. Elle semblait vaincue. En apparence, elle était soumise à leur loi. Les sujets se rassemblèrent prestement et accueillirent les deux hommes vigoureux et leur vilaine accompagnatrice. « Nous venons du pays de Do. Nous venons t'offrir cette femme. » Narinagan Konate regarda la jeune fille. Elle était repoussante. Mais il vit là une excellente opportunité d'accomplir la destinée promise par la sorcière. La nature s'était trompée en la créant, cette demoiselle. Elle l'avait façonnée de travers. Sa tête était énorme, son cou chétif, ses jambes maigres en haut et fortes en bas. Son dos était si voûté que ses seins semblaient deux gouttes de chair suspendues dans le vide. Sa lèvre inférieure, elle-même sujette aux lois de la pesanteur, pendait vers le sol, irrépressiblement attirée vers la terre. « J'accepte cette femme !» Des murmures réprobateurs et inquiets fusèrent dans l'assistance. Mais personne n'eut le courage de formuler clairement son désaveu. L'expulsion semblait être le seul choix convenable pour tous les spectateurs. Déconcertés par la lubie royale, les villageois regagnèrent leur hutte. Bien qu'en apparence Naré se fût montré intraitable, il doutait de la pertinence de son choix. Il examina Derechef sa promise et réalisa l'horreur de la situation. Parce que possédait-elle seulement les attributs intimes féminins. Le roi était ambitieux, il pensa à sa postérité, à sa gloire posthume. « Je prendrai soin d'elle !» avait-il assuré à ses compagnons chasseurs, redoutant le moment où il devrait pratiquer l'intromission. Les hommes étrangers étaient repartis contents, ils connaissaient la valeur de leur présent, cette femme était exceptionnelle, et pas seulement à cause de son physique. Elle avait des talents, et le roi Narinaga Konakte était un chanceux.
Voilà, une présentation de Sogolon. Comment elle arrive, voilà. Et qui correspond quand même au calcul qu'avait fait le roi, puisqu'il pensait qu'effectivement, si la prédiction se révélait, il aurait un fils, ce qui a été une prédiction exacte.
Tout à fait.
Alors, pour revenir à l'autre partie du récit, dans le côté miroir 21e siècle, il y a une phrase que j'ai relevée là, vous dites « Le printemps arabe 2010 n'avait pas remboursé la jeunesse de ses espoirs. »
Oui.
Ils étaient nombreux à tenter leur chance.
Et encore aujourd'hui, voilà. Mais ils viennent d'autres endroits du monde. Oui. Mais l'humanité a toujours bougé, a toujours migré. Et le peuplement de la Terre, ça s'est fait parce que les hommes ont eu le courage d'aller affronter le froid, la chaleur... J'ai entendu dire il n'y a pas très longtemps, mais bon, je ne suis pas archéologue et spécialiste, mais j'ai entendu dire dans une émission à la télé que les hommes avaient décidé de quitter l'Afrique à cause de la sécheresse. Voilà, bon ben aujourd'hui, voilà, on voit toujours, et la Terre, les hommes ont migré partout. Je crois que c'est quelque chose qui fait partie de notre évolution. Voilà, enfin bon, c'est ma conclusion. Oui.
Il y a une phrase de Ferré qui dit en définitive, l'homme le plus courageux, c'est celui qui a quitté la canopée.
Oui, c'est vrai.
Il a voulu aller en bas. Celui-là, c'est lui qui a mis l'humanité en marche, il dit.
Oui, pourquoi pas.
Alors, est-ce que on peut vous demander peut-être. Alors, il y a une chose aussi qui m'a... Page 78, vous parlez d'un poète, le regard d'un poète perdu.
Oui, ils sont peut-être un peu tous perdus, les poètes.
Oui.
Parce qu'ils comprennent des choses que les autres ne comprennent pas.
Oui.
Alors après, il faut avoir le courage qui correspond à sa clairvoyance aussi.
Oui.
Ça doit pas être drôle tous les jours.
La lucidité n'est pas toujours ce qu'il y a, parce que bon, le poète, effectivement, c'est quelqu'un qui est lucide. voilà. Qui est lucide. Donc c'est la prophétie aussi. Hein. On est là, on n'est pas loin d'ailleurs de ce côté initiatique, de la prophétie. Hein. C'est-à-dire, il voit plus loin, il voit plus loin.
Lui,
il sait ce qu'il faudrait faire, peut-être. Mais il sait également que ça va être difficile. Quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il peut avoir un regard de poète perdu.
Voilà, c'est ça.
Alors. On pourrait peut-être finir, il reste 5 minutes. Ah bon, 4 minutes, dit Claude.
Alors j'ai juste
sur un petit extrait.
Un tout petit extrait, d'accord. Alors en fait là ça se situe au moment où Narinagan Konaté est en train de comprendre que son Diata et Sogolun ne lui apportent pas finalement tant de choses que ça et que son enfant est handicapé et qu'il ne deviendra pas un grand roi. Donc il est en passe de le bannir.
Alors on est dans la période de doute là.
Voilà. Et donc Sandhyataketa a une petite sœur qui lui a apporté le sceptre royal et donc il vient de le toucher. Et à ce moment-là, au moment où le roi va prononcer le bannissement, on entend « Arrêtez !» Tous se tournèrent vers cet enfant étranger qu'ils ne connaissaient pas et qui requérait leur attention. Le soleil floutait les silhouettes, la chaleur devenait brouillard. Le visage semblait familier et pourtant il n'avait jamais passé en courant sur la place. Les villageois tentaient de deviner l'identité de l'inconnu, et ceux qui la connaissaient déjà tremblaient d'assister à ce prodige. Certains ouvrirent la bouche, médusés, d'autres cessèrent de respirer, les plus véhéments furent contrariés et les suiveurs intrigués. Narinagan Konaté suspendit sa phrase. L'ordre de bannissement n'était plus sa priorité. Il devait considérer la situation sous un nouveau jour. Sogolun sourit, et même si son cou était perpétuellement tourné vers le sol, elle crut se déplier, légère, portée par sa nouvelle dignité, Sondhyata, le grand Keta, qui veut dire donc l'héritier, Keta, s'était enfin levé.
Oui.
Voilà.
Alors, quels sont vos projets?
Alors, j'ai un conte sur un arbre, oui. Justement, qui s'appelle l'arbre aux mains blanches. Et j'ai beaucoup de mal à trouver un dessinateur, mais j'ai bon espoir. Hein, la persévérance, on arrive toujours à mener ses projets à bien. Un dessinateur,
ah
une dessinatrice.
Ah oui, d'accord. Voilà. Pour illustrer
ce conte. Pour illustrer ce conte. Mais voilà, oui. L'arbre aux mains blanches. Qui parle aussi d'un migrant qui rencontre la guerre et les gens se battent pour un oui ou pour un non. Parfois pour un d'accord. Peut-être. Qui est tout minuscule, ce peut-être, mais ils font quand même la guerre. Voilà, donc ça, c'est pour les enfants. Et normalement, avec les éditions Rode. Le Brocart bleu, c'est un roman qui se passe en Indochine, ça devrait être avant décembre, normalement. Et qui traite de la culpabilité, mais dans toutes ses différentes facettes, nationales, personnelles, et la honte d'être soi aussi, sur la colonisation, la guerre.
La
présence froide. C'est toute une vie de quelqu'un qui part en Indochine. Donc il y a avant la guerre d'Indochine, c'est pour ça de différentes culpabilités sur la guerre, sur la colonisation, est-ce qu'elle est justifiée ou pas.
De 1945 à maintenant, c'est ça
75 plutôt, on dirait,
d'accord.
Quand les Français ont dû partir.
D'accord,
de
très intéressant, effectivement. Ouais. Parce que là aussi, il y a eu beaucoup des évolutions extraordinaires, là aussi. Hein.
Ah, et puis l'Indochine, c'est. Je me permets de dire Indochine, tout en sachant que voilà. Mais ça replace dans un contexte où, pour les romans, c'est quand même intéressant. Oui. C'est une atmosphère. Mais alors là, j'ai travaillé 3 ans, vraiment, c'était un énorme travail. Alors j'espère que.
Donc, travail également de documentation.
Énormément, parce que.
Oui. Là dans ce livre, il y a beaucoup de documentation.
Beaucoup,
j'ai vu qu'il y avait des notes, d'ailleurs, qui renvoient à des livres qui m'intéressent. Oui. Moi, je fais, c'est bien aussi.
Alors, malheureusement, ces livres, on ne les trouve qu'à la bibliothèque François Mitterrand à Paris.
Ah bon
parce que l'ethnologue est décédé maintenant et ces livres, il n'était pas très, très connu. Ouais. Parce que sur les rites des chasseurs Bambara, il n'y a pas de livre.
Oui.
J'ai mis quelques temps à avoir l'idée d'aller à la bibliothèque François Mitterrand et on ne peut pas emprunter le livre. Donc, il faut le réserver et passer 2-3 jours pour le lire.
D'accord.
Mais c'est pas grave quand on est passionné,
Alors je crois que ce livre va être réédité.
Oui, parce que ça y est, il est déjà réédité depuis 15 jours,
parfait.
Avec une nouvelle jaquette et
très bien.
En amélioré.
Donc on va le retrouver en librairie bientôt.
Voilà.
Alors
voilà,
rappelez le titre.
Les rumeurs de la terre.
Voilà. Isabelle Maloué. Merci beaucoup.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Et à très bientôt. Donc on espère que la naissance de ce nouveau livre sera assez prochaine et que nous aurons le plaisir de vous avoir de nouveau dans ce studio.
Ce sera un plaisir pour moi, merci.
Merci beaucoup Isabelle Maloué. Donc n'oubliez pas Les rumeurs de la terre qui a été couronné du prix du roman des gourmets des lettres de Toulouse sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux.
Merci beaucoup.
Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitane et nous vous disons à la semaine prochaine. À Dicias.